On va parler à présent de l'un des événements qui peuvent s'avérer être l'un des événements majeurs de l'année 2023 et qui est pourtant passé totalement inaperçu. C'était vendredi dernier. Les Iraniens et les Saoudiens se sont mis d'accord pour échanger de nouveau des ambassadeurs après 7 mois de brouille, ou beaucoup plus peut-être, même après 7 ans de brouille, si je m'abuse. Et c'est un événement considérable avec des implications absolument folles, y compris sur les accords d'Abraham, y compris sur la paix au Proche-Orient, mais surtout, le fait peut-être le plus inattendu, c'est que cette réconciliation entre deux frères ennemis, entre deux frères musulmans ennemis, a été permise grâce à l'intermédiaire des Chinois. Et pour parler de ce sujet, nous sommes en ligne avec Pierre Aski. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Pierre, vous êtes l'un des journalistes qui connaissait le mieux la Chine parce que vous avez vécu sur place, vous avez été à Pékin. Vous connaissez aussi très bien les États-Unis puisque vous avez aussi été correspondant à Washington. Et il se trouve que vous avez aussi été correspondant à Jérusalem. Donc vous avez vraiment absolument tous les éléments pour essayer de nous éclairer. Extraordinaire, magnifique.
C'est gentil.
On commence d'abord avec le plus dingue.
C'est un événement majeur.
Vous êtes d'accord que c'est un événement majeur, bien sûr.
Oui, bien sûr. À plusieurs niveaux, à la fois pour la région du Golfe, pour le Moyen-Orient en général, et pour la place de la Chine dans le monde aujourd'hui. Donc voilà, il y a tellement de niveaux d'impact de cette affaire que c'en est vertigineux.
Pierre Aski, le plus vertigineux pour moi, qui connaît moins bien que vous, c'est la Chine. Mais qu'est-ce que les Chinois viennent faire là-dedans ? Savoir que les Saoudiens, pendant toutes les années où moi, par exemple, j'étais étudiant à Tel Aviv, un dirigeant saoudien ne bouge pas un doigt sans demander aux Américains. C'est assez impossible. Les Français ont tout fait pour casser le lien entre les Saoudiens et les Américains. C'est impossible. Et voir les Chinois intervenir là-dedans, je crois que même les Chinois eux-mêmes auraient dit « Mais non, mais nous, on a rien à faire là-dedans. » Comment est-ce que la Chine a réussi cette prouesse, ce tour de force d'être le nouvel Américain entre les Iraniens et les Saoudiens?
Alors, je pense qu'une bonne partie de la réponse tient en MBS, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, qui a deux intérêts dans cette affaire. Le premier, il est personnel et il ne faut jamais négliger ce genre de choses. Vous vous souvenez quand même que Mohamed Ben Salman a été impliqué directement, selon la CIA, dans l'assassinat de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien coupé en morceaux dans le consulat saoudien à Istanbul. Et à l'époque, il y a eu une période de glaciation, personne ne voulait le voir, personne ne voulait lui serrer la main. Et qui a déroulé le tapis rouge le premier pour Mohamed Ben Salman? Xi Jinping, le numéro un chinois. Donc il y a cette dimension personnelle, elle n'est pas négligeable et elle est à rappeler en regard de ce qui s'est passé avec Joe Biden, puisque Joe Biden en avant à la Maison Blanche a dit « Je ne parle pas à cet homme, je ne parle qu'à son père et je ne veux rien avoir à faire à lui ». Et lorsqu'il a eu besoin de faire baisser les quotas pétroliers l'année dernière, lorsque les prix atteignaient des sommets, il est allé à Riyad. Il a eu tout un pataquès, savoir est-ce qu'il allait lui serrer la main ou pas. Finalement, il a fait un bump fist avec le poing. C'était un cinéma incroyable. Et à l'arrivée, les Saoudiens n'ont pas bougé parce qu'ils avaient un accord avec les Russes, qui s'appelle OPEC+, sur les quotas pétroliers, et ils ont refusé la jonction de Joe Biden, ce qui était quand même une humiliation. Et qui arrive à Riyad 2 mois plus tard? Xi Jinping. 3 jours de rencontre en Arabie Saoudite, non seulement avec l'Arabie Saoudite, mais avec le Conseil de coopération du Golfe et avec tous les pays du Moyen-Orient de la Ligue arabe. C'est une première absolue dont on n'a pas mesuré la portée. Qui arrive à Pékin 3 mois plus tard, il y a quelques semaines à peine, le président Raisi d'Iran. Et donc, cette histoire d'accord entre les Saoudiens et les Iraniens, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain comme ça, sans préalable. Ça fait des années que la Chine a développé des relations avec ces deux pays, mais on avait toujours l'impression que la Chine était uniquement intéressée par le côté bilatéral, c'est-à-dire je vous achète du pétrole, je vous vends autre chose, je fais des deals qui intéressent la Chine, par exemple obtenir le soutien de l'Arabie Saoudite contre les Occidentaux qui embêtent la Chine sur les Ouïghours à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, c'était un des intérêts chinois. Donc on pensait qu'en gros la Chine n'était qu'un pays transactionnel comme ça qui fait du bilatéral. Et là tout d'un coup on découvre une Chine qui se comporte comme une superpuissance, c'est-à-dire qu'elle vient aussi pour avoir une politique régionale, avoir des rencontres avec toute une région. Et là, le Wall Street Journal annonçait aujourd'hui qu'il allait y avoir un sommet retour à Pékin du Conseil de coopération du Golfe. Donc c'est quelque
c'est
chose
énorme.
De profond.
C'est énorme.
C'est quelque chose de profond. Et là, il y a du billard à plusieurs bandes. C'est-à-dire que les Chinois font la preuve qu'ils sont une grande puissance, capable de mettre ensemble des frères ennemis comme les Iraniens et les Saoudiens, ce que personne n'avait réussi à faire ces dernières années quand même. Et d'autre part, ils donnent l'image d'un pays qui cherche à apaiser les tensions, à faire la paix, etc., au moment où ils sont dans une tension extrême avec les Américains. Et à qui s'adresse ce message? Il s'adresse au monde non occidental. Les Chinois savent très bien qu'avec l'Occident, les choses sont très très mal embarquées et que les Américains sont en train d'imposer ce climat de guerre froide, notamment sur la technologie. Le découplage sur la technologie est vraiment profond. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique latine, une partie de l'Asie et évidemment le Moyen-Orient.
Et là, le monde arabe.
La Chine joue sa carte.
Pierre Aski, deux questions concernant le volet israélien de ce dossier que vous avez très clairement défini comme étant énorme et donc multilatéral. D'abord, qu'en est-il pour les Israéliens? Ils doivent se demander aujourd'hui un peu, pour ceux qui réfléchissent un peu à l'avance, je ne suis pas sûr que tous le fassent en ce moment, croyez-moi, mais pour ceux qui ont encore envie de réfléchir un peu à l'avance, les Israéliens doivent se demander, un, est-ce que vraiment le déclin de l'Amérique dont on parle tout le temps en fait, est là, parce que c'est quand même c'est gros. Et deuxièmement, qu'en est-il par rapport à la stratégie globale qui était on se rapproche des Saoudiens parce qu'ils ont besoin de nous et des Américains face aux Iraniens. Mais si maintenant ils sont en paix avec les Iraniens, nous les Israéliens, on est où là-dedans?
Alors, effectivement, je pense que du côté du gouvernement israélien, vu la réaction de Bibi Netanyahou, qui visiblement était fou de rage, et a commencé à blâmer à la fois ses prédécesseurs, Joe Biden, etc., pour cette débâcle, parce que c'est quand même ça par rapport à sa stratégie, il doit se poser pas mal de questions. Maintenant, il y a quand même une inconnue dans cette histoire qui est quelle est l'ampleur de ce rapprochement saoudo ou irano-saoudien. Parce que reprendre des relations diplomatiques, c'est une chose, ça apaise effectivement les tensions. Régler les problèmes de fond, c'en est une autre. Et on peut avoir des relations diplomatiques sans être véritablement en paix ou en tout cas en parfaite harmonie. Et là, Il y a trois questions qui se posent. La première, c'est effectivement, est-ce que ça va aider à la paix au Yémen? Apparemment, oui. Il y a déjà un arrêt des combats depuis plusieurs mois au Yémen. Le Yémen, c'était le théâtre d'une guerre indirecte entre les Saoudiens et les Iraniens, plus les Émirats Arabes Unis au milieu. Et visiblement, il y a une volonté générale de mettre fin à ce conflit qui n'a servi à rien, sinon qu'à détruire ce pays et à tuer 300 000 yéménites. C'est une horreur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui se passe sur le nucléaire iranien? Est-ce que les Saoudiens, aujourd'hui, sont totalement sereins par rapport à cette question? Je pense que la réponse est clairement non. Donc la question, c'est quelles assurances ils ont eues, quelle sera leur réaction si demain l'Iran reprend, continue son accélération vers le seuil nucléaire, donc l'enrichissement à 90% de l'uranium et éventuellement, c'est une autre étape, la fabrication d'une bombe. Cette question-là, elle n'a pas de réponse, évidemment. Et la troisième, c'est aussi le rôle de l'Iran dans la région, que ce soit en Irak, en Syrie et au Liban. Et la question syrienne, elle est évidemment capitale pour Israël. Et là, on a un jeu, une équation infernale, mais qui est plus globale, qui est la relation entre Israël et la Russie. Parce que quand même, une partie de tout cet édifice, c'était la relation directe qu'avait Netanyahou avec Poutine et qui portait en partie sur la garantie que l'Iran n'irait pas chercher des noises à Israël à partir de la Syrie. Et c'était la Russie qui était un peu le garant de ce fragile équilibre. Or, le rapprochement entre la Russie et l'Iran avec les livraisons de drones iraniens à la Russie, change un peu cet équilibre-là. Et on a vu récemment qu'Israël a commencé à infléchir sa politique vis-à-vis du conflit ukrainien, puisque le ministre des Affaires étrangères s'est rendu à Kiev, et que...
Et que Netanyahou a dit « je n'exclus pas de livrer des armes », ce qui est une révolution pour les Israéliens.
Voilà, et pendant un an de conflit, personne ne comprenait pourquoi Israël était resté... totalement à l'écart.
Vous comprenez. Ça vous plaisait pas. Moi non plus, j'aime pas. Mais bon.
Il suffisait de voir le contexte et l'histoire régionale pour comprendre. Mais beaucoup de gens dans le public se disaient mais pourquoi Israël reste en retrait. Jusqu'à aux Ukrainiens eux-mêmes qui au début l'ont dit publiquement puisqu'ils ont même empêché Israël de venir à une conférence à Paris d'aide à l'Ukraine. Pour exprimer leur mauvaise humeur. Donc voilà, toute cette équation-là, elle est en train d'être modifiée. Donc est-ce que les Saoudiens... moi, à mon avis, je vais vous dire, c'est que... mais c'est une pure hypothèse. Hein, c'est que les Saoudiens sont devenus, comme beaucoup de puissances moyennes à travers le monde, on le voit avec l'Inde, on le voit avec l'Afrique du Sud, on le voit avec le Brésil de Lula, s'émancipent à la faveur de cette guerre d'Ukraine. C'est-à-dire que cette guerre a permis de casser les allégeances automatiques. Et on le voit à la fois, l'Inde est typique, l'Inde est alliée de la Chine, alliée de la Chine d'une certaine manière, pour ne pas condamner l'Ukraine, la Russie dans le conflit ukrainien, mais elle est alliée des États-Unis contre la Chine. Donc c'est à ne plus rien y comprendre, sauf qu'il y a des raisons objectives très, très claires là-dessus. L'Arabie Saoudite a fait pareil. Elle a dit non à Biden pour le pétrole en s'en tenant à un accord avec les Russes, qui est quand même incroyable quand on pense à 60 ans d'obéissance absolue de l'Arabie Saoudite depuis le pacte de Quincy en 1945. L'Arabie Saoudite était au taquet avec les Américains. C'était pétrole contre sécurité, et ça a marché pendant toute cette période. Et là, c'est fini. Et donc, la question, c'est si l'Arabie Saoudite est devenue effectivement une puissance qui, en gros, une puissance égoïste comme les autres, c'est-à-dire qu'elle prend son intérêt là où il est. Il peut être avec les Russes sur le pétrole, il est avec les Chinois sur ce qu'ils peuvent apporter, et aussi sur l'économie, puisqu'il y a des grands projets économiques en Arabie Saoudite aujourd'hui, et que les Chinois prennent une part croissante dans le développement économique de l'Arabie Saoudite, et ils sont avec les Américains sur d'autres choses. Là, ils sont en train de signer un énorme contrat avec Boeing pour la création d'une nouvelle compagnie aérienne. Donc, ils ne sont pas en train de changer d'allégeance.
Alors, attendez, vous avez plein d'idées à la minute. Je voudrais me permettre de vous interrompre. Et alors, comment on fait ? D'abord, on commence par les Iraniens, c'est-à-dire je vous demande si l'Iran aussi est en train de devenir une puissance régionale de cet acabit que vous êtes en train de décrire avec les Saoudiens, où ils ont trop de problèmes économiques et intérieurs, parce que les Iraniens aussi ont maintenant deux grands copains. Ils ont les Russes à qui ils ont beaucoup donné. Et apparemment, ils vont avoir les Chinois. Est-ce que eux aussi vont réussir à devenir cette puissance régionale inquiétante pour la région ?
La question, c'est l'Iran sort de son isolement dans cette affaire. La guerre d'Ukraine a été une formidable opportunité pour eux de sortir de cet isolement. Comme que se souvenir que jusqu'au début de la guerre d'Iran, la Russie et la Chine étaient dans l'accord nucléaire et participaient à un consensus international qui voulait priver l'Iran de l'arme nucléaire. Et les négociateurs français me l'ont dit, aussi bien les Russes que les Chinois jouaient le jeu dans les négociations internationales. Ça s'est grippé avec le déclenchement de la guerre et ensuite, on l'a vu avec les livraisons d'armes. Donc l'Iran, aujourd'hui, a cassé l'isolement dans lequel il était, puisque les Chinois ont libéré de l'argent qui était bloqué, les Russes leur achètent des drones. Donc, et maintenant, il y a cet accord avec l'Arabie Saoudite qui est une bouffée d'oxygène pour un Iran qu'on disait assiégé, avec une révolution chez lui, avec des sanctions comme aucun autre pays n'en a, etc. Donc ça, c'est un bonus incroyable pour le régime iranien. Est-ce que ça le transforme en puissance régionale ? On n'en est pas là, parce que l'Iran reste aujourd'hui toxique, notamment dans sa région. Mais ça veut dire que tout le monde a besoin de traiter avec l'Iran. Un négociateur français qui était aux Émirats Arabes Unis il y a quelques semaines avec Bruno Le Maire me disait que les Émiratis ou les Émiriens, je ne sais plus quel est le mot, expliquer à la délégation française qu'ils n'avaient jamais rompu les ponts avec l'Iran et qu'ils avaient un besoin vital de garder une ligne ouverte avec l'Iran. Donc l'Iran n'est pas aussi isolé qu'on veut bien le croire, et il l'est moins aujourd'hui qu'il l'était il y a quelques jours. Donc cette histoire est vraiment assez fascinante, de la manière dont ce pays qu'on pensait vraiment au bout du rouleau est capable de rebondir.
On pensait même que c'était très gonflé de leur part d'attaquer comme ça tous les Occidentaux en Ukraine. On se dit, mais qu'est-ce qui, c'est pas à leur place. Cette fois-ci, le versant accord d'Avram, ce serait peut-être d'ailleurs notre dernière question. Toute l'idée des accords d'Avram est le monde arabe a besoin, en tout cas pour son versant du Golfe, parce que c'est différent pour les Marocains, mais par exemple, Bahreïn, Émirats, Oman ont besoin des Américains face à l'Iran. S'ils sont en paix, les accords d'Avram, ça peut continuer ou pas ?
Moi, je pense que oui. Je pense que les accords d'Abraham reposent sur une version réelle politique et réaliste des rapports entre États dans cette partie du monde. Mais il y a quand même des choses qui sont indispensables, et notamment la nature de la vie politique israélienne et de ses rapports avec les Palestiniens. Même si les dirigeants des Émirats d'Arabie Saoudite ou du Bahreïn, les Palestiniens sont le cadet de leurs soucis, ils ont des opinions publiques pour lesquelles ça compte un petit peu plus, et il y a une image qu'ils ne peuvent pas trop abîmer. Et donc, je pense que ce qui est en train de se passer en Israël sera peut-être décisif pour l'avenir de ces accords. Parce que on le voit d'ailleurs, les Émirats qui jouent un rôle clé dans cette affaire ont fait un petit pas de côté là en ce moment par rapport à ce qui se passe en Israël. Ils ont quelques états d'âme. Donc,
ils ne reçoivent pas Netanyahou. Ça va loin. Ils ne reçoivent pas Netanyahou.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis,
alors que c'est lui qui a fait les accords d'Avram. Il n'est pas invité.
Oui, tout à fait. Et donc, il y a quelque chose qui fragilise cet équilibre. Mais je pense que, fondamentalement, les dirigeants arabes aujourd'hui sont dans une logique de realpolitik et qui est basée à la fois sur leur sécurité et leur besoin de développement, leur besoin aussi de penser à l'après-pétrole, etc. etc. Donc, de ce point de vue-là, ils ont une relation décomplexée avec Israël, mais il y a quand même des formes à préserver.
Pierre Aski, merci. C'était un vrai plaisir de faire tout ce tour d'horizon avec vous, suite à cette décision incroyable des Chinois et surtout des Saoudiens, des Iraniens. Merci à vous d'avoir
bonne
été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir.
Merci, bonne soirée.
Voilà, après cette conversation avec cet éminent spécialiste, cette émission est terminée. Événement qui pourra peut-être un jour être qualifié d'historique, hein, ce début de paix entre l'Iran et les Saoudiens. Vous voulez vous rappeler de télécharger l'application Radio Shalom sur votre téléphone portable, que ce soit un téléphone iPhone ou un téléphone Android comme le mien. Juste faites attention d'écrire Radio Shalom avec un S, Radio Shalom, S-H-A-L-O-M, et je cède la parole à Pierre Grandus.